Imaginons un instant la scène. Tu quittes une colocation où t'as récup pendant, je sais pas, plusieurs années.
Ouais, le genre d'endroit où chacun a ses petites habitudes.
Exactement. Le fonctionnement quotidien reposait sur des règles hyper strictes, genre qui s'occupe de la vaisselle, à quelle heure précise on éteint les lumières et surtout quels aliments sont catégoriquement interdits dans le frigo commun.
C'est toujours sur la nourriture qu'il y a des embrouilles de toute façon.
Bah oui, classique, hein. Donc, tu pars pour un long voyage. Et 5 ans plus tard, tu reviens. Tu ouvres la porte de l'appart, et là, c'est l'incompréhension totale.
Les fameux nouveaux colocataires.
Voilà. Les nouveaux ont entièrement redécoré l'espace. Il n'y a plus aucun couvre-feu. Et pire encore, ils cuisinent sur les plaques communes des plats dont l'odeur même était autrefois bannie des lieux. Le malaise, quoi.
C'est un choc frontal. Et cette dynamique d'une maison qui a complètement changé de visage pendant une absence, ça correspond assez bien à la situation historique qu'on va aborder aujourd'hui.
Bien sûr, à une échelle beaucoup plus vaste qu'un simple appart.
Oui, on parle du 1er siècle à Rome, là. Mais le sentiment de retour au bercail qui provoque un conflit inévitable, c'est exactement ça.
C'est carrément le cœur de notre exploration d'aujourd'hui. Bon, décortiquons un peu tout ça. On va se plonger dans les recherches du docteur Craig Kinner.
Plus spécifiquement, sa deuxième conférence sur l'épître romain.
C'est ça. Et notre mission, c'est pas de faire de la théologie juste pour le plaisir de débattre d'idées abstraites. On va analyser ce texte de l'Antiquité comme un véritable manuel de résolution de conflits interculturels.
Parce qu'on parle d'une communauté qui menace vraiment de s'effondrer de l'intérieur. C'est pas juste un petit désaccord.
Et pour bien saisir la gravité de la crise, il faut poser le cadre historique. T'es notre expert pour ça. On est dans la capitale de l'Empire romain. C'est bien ça, Sam ?
Ouais, on est à Rome. Et quelques années avant la rédaction de cette lettre, l'empereur Claude a pris une décision politique drastique. Il a promulgué un édit qui expulsait toute la communauté juive de la ville.
Toute la communauté ?
Comme ça, du jour au lendemain.
Littéralement.
Et à cause de cette expulsion, l'église chrétienne locale, qui s'était construite sur de très fortes racines juives à la base, s'est retrouvée presque exclusivement composée de gentils.
C'est-à-dire de non-juifs, des gens d'origine romaine ou grecque.
Exactement. Et ça a duré environ 5 ans.
5 ans, c'est énorme pour s'habituer à de nouvelles règles. Ces croyants d'origine païenne se retrouvent donc seuls aux commandes de leur colocation spirituelle.
Et ils développent inévitablement leurs propres habitudes de fonctionnement.
Sans se soucier des contraintes de la loi juive qu'ils ne connaissaient probablement pas ou très peu de toute façon.
C'est la suite logique. La culture romane prend le dessus dans leur rassemblement. Mais voilà. À la mort de l'empereur Claude, l'édit d'expulsion prend fin.
Ah !
Le retour des anciens locataires.
C'est ça.
Les Juifs font leur bagage et rentrent à Rome. On y trouve d'ailleurs des Juifs chrétiens bien connus, comme le couple Aquilas et Priscille.
Que l'apôtre Paul avait croisé à Corinthe pendant leur exil, si je ne me trompe pas.
Tout à fait. Ils reviennent tous et le choc culturel lors de ces retrouvailles est brutal. C'est une vraie crise sur le terrain.
Ouais. Avant d'analyser la rhétorique de Paul, faut vraiment s'imaginer l'urgence de la situation. C'était pas des débats théoriques entre intellectuels, c'était palpable au quotidien.
Les divisions se cristallisaient autour de ce que le chercheur James D.G. Dunn appelle des marqueurs de frontières. Dans le monde antique, l'identité d'un groupe, ça se définissait par des pratiques très visibles.
Genre quoi, les vêtements ?
Pas seulement. Dans ce cas précis, on parle de la circoncision, du respect scrupuleux du sabbat et des jours saints, et surtout des lois alimentaires.
Ah, les fameuses règles sur la nourriture. C'est clair que pour des juifs pieux de retour d'exil, entrer dans la maison d'un croyant non-juif et sentir l'odeur d'un porc rôti, ça devait être juste insoutenable.
Pour eux, c'est une violation directe de l'11e chapitre du Lévitique. C'est viscéral.
Et les chapitres 14 et 15 de la lettre aux Romains abordent frontalement ces disputes sur la nourriture, justement. Mais en lisant ces passages, il y a une question qui me vient.
Vas-y.
Est-ce que Paul n'agit pas un peu simplement comme un directeur des ressources humaines désespéré ? Tu sais, le gars qui essaie de forcer 2 départements en guerre à faire une activité team building ? Genre, c'est juste du management de crise.
C'est une super question. Mais ce qui est fascinant ici, c'est que l'approche de Paul s'attaque aux racines profondes du préjugé sociologique. C'est bien au-delà d'une simple astuce de cohésion d'équipe.
Ok, comment ça ?
Faut comprendre l'état d'esprit de la société romaine de l'époque. Les Romains méprisaient ouvertement les Juifs précisément pour ces 3 pratiques.
Ah ouais ? Ils s'en moquaient ?
Totalement. Dans la littérature romaine, chez des auteurs comme Tacite ou Juvénal, le sabbat est souvent moqué comme une excuse pour la paresse.
Sérieux, hein ?
Ouais. La circoncision est vue comme une mutilation barbare et les restrictions alimentaires comme une superstition complètement irrationnelle.
Ah, je vois le tableau. Donc, les croyants d'origine romaine avaient très probablement absorbé ce complexe de supériorité culturelle.
Exactement.
Il devait regarder les Juifs de retour avec une certaine condescendance en se disant bah, « Vos pratiques sont dépassées, les gars !»
Et c'est ce danger précis que Paul perçoit. S'il se contente de leur dire « Soyez polis les uns envers les autres », le ressentiment va rester. Il veut détruire la mécanique même du jugement mutuel.
Et il fait ça comment?
Pas d'observer ces marqueurs extérieurs, mais c'est l'amour mutuel. Il leur demande de cesser de s'évaluer sur des coutumes culturelles.
Mais s'ils sont si braqués les uns contre les autres, il s'y prend comment pour les réconcilier? Parce que de ce que j'ai lu, sa méthode est assez violente. En gros, il décide de détruire l'ego de tout le monde en démontrant qu'ils ont tous échoué.
Ouais, la structure des premiers chapitres fonctionne comme un nivellement par le bas, en fait. Dans le tout premier chapitre, Paul s'attaque aux pratiques du monde gréco-romain.
Ok.
Il utilise des arguments philosophiques que les Romains appréciaient pour démontrer que, malgré leur prétendue sagesse, les gentils sont moralement à la dérive et éloignés de Dieu.
J'imagine que les lecteurs juifs devaient lire cette partie en hochant la tête, genre « Ah, il a trop raison sur ces païens !»
Certainement, la rhétorique est construite pour les conforter au départ. Mais attention, au chapitre 2, boum, il opère un revirement spectaculaire.
Il s'en prend à eux.
Il se tourne vers ses compatriotes juifs et leur démontre que, bien qu'ils possèdent la loi de Moïse, ils sont tout aussi perdus. Pourquoi? Parce qu'ils sont incapables de la respecter à la perfection.
C'est fort, ça. Parce qu'à l'époque, beaucoup de juifs pensaient que les gentils étaient incapables de suivre les lois moraux basiques, alors qu'eux s'efforçaient de respecter des centaines de commandements.
C'est ça. Paul démontre cette assurance. Et au chapitre 3, la conclusion tombe, froide et nette. Personne n'est juste. Tout le monde est dans la même impasse.
C'est fou. C'est un peu comme... Attends, j'ai une image. C'est comme un prof qui entre dans une classe où les étudiants passent leur temps à rivaliser et à se comparer. Il pose la pile de copies sur le bureau et annonce un truc du genre « J'ai corrigé l'examen de mi-parcours, vous avez tous eu zéro ».
Ouais, c'est exactement l'idée.
Du coup, soudain, il n'y a plus de premier de la classe pour se vanter. Ils sont bien obligés de ravaler leur fierté et de se mettre à réviser ensemble.
La dynamique s'en rapproche totalement. Et la conséquence de cet échec collectif, il la développe dans les chapitres 4 à 8. En gros, si tout le monde est incapable de se sauver par ses propres mérites, alors tout le monde doit être sauvé de la même manière.
Par la foi.
Oui. Il prend l'exemple d'Abraham, qui est une figure incontestable pour les Juifs, pour montrer que son statut devant Dieu a été obtenu par la foi, par la confiance, bien avant que la loi ou la circoncision n'existe.
Attends, ça m'amène au chapitre 9 à 11. Et j'avoue, j'ai toujours trouvé cette section super confuse. En parcourant les notes du docteur Kinner, j'ai vu que des érudits comme le théologien allemand Rudolf Bultmann considéraient carrément ces chapitres comme hors sujet.
C'est vrai, ça a longtemps été un point de débat.
À première vue, ça ressemble à une longue digression sur l'arbre généalogique. Pourquoi Paul s'attarde là-dessus alors qu'il essaie de régler un conflit urgent?
C'est une excellente remarque. Pendant longtemps, la critique biblique a perçu ça comme une parenthèse un peu maladroite. Mais l'érudition moderne considère aujourd'hui que c'est le cœur même de son argumentaire sociologique.
Ah bon? En quoi l'arbre généalogique aide à résoudre le conflit?
Parce que Paul devait s'attaquer à l'idée tenace que l'ethnicité, le fait de descendre physiquement d'un patriarche, offrait une sorte de garantie spirituelle. Et pour déconstruire ça, il utilise l'histoire même de la nation d'Israël.
Concrètement, il s'y prend comment avec cette histoire?
Il rappelle des faits troublants pour ceux qui s'appuient sur la génétique. Regarde, Abraham a eu deux fils, Ismaël et Isaac. Mais la promesse divine n'est passée que par un seul.
Isaac.
Oui. Et plus frappant encore, Isaac a eu des jumeaux, Jacob et Ésaü, nés de la même mère au même moment. Pourtant, un seul a été choisi pour porter la lignée.
Waouh. Donc la démonstration de Paul est implacable. L'ascendance physique, le simple fait de faire partie du bon groupe ethnique, ça garantit rien du tout.
Rien. Le choix relève uniquement de la souveraineté et de la grâce.
D'accord, je comprends comment ça rabaisse l'orgueil ethnique des Juifs qui s'appuyaient sur leur lignée, mais comment ça parle aux Romains d'origine païenne? Parce que eux, du coup, ils se croyaient désormais supérieurs, non?
C'est là qu'ils s'adressent directement à eux, avec la fameuse métaphore de l'olivier.
Ah, j'en ai entendu parler.
Il leur explique que l'arbre originel, c'est l'arbre juif. Les gentils ne sont que des branches sauvages qui ont été greffées artificiellement sur cet arbre, uniquement par grâce.
Donc ils n'ont pas la ramener.
Exactement. Il leur dit littéralement de ne pas s'enorgueillir contre les branches naturelles qui ont été coupées. Parce que si Dieu a pu couper les branches naturelles, il n'hésitera pas à couper les branches sauvages si elles deviennent arrogantes.
C'est du génie. Il écorche l'ego de chaque camp de manière ultra méthodique. Mais... c'est brillant intellectuellement, oui, mais il y a une question qui se pose. Si Paul dit aux deux camps qu'ils ont tout faux, pourquoi il ne jette pas simplement sa lettre au feu ?
Bonne question.
Pour tenir un discours aussi tranchant aux habitants de la capitale du monde, il fallait une crédibilité énorme. Qui il se croyait être au fond pour leur parler comme ça ?
Et c'est là que l'identité de l'auteur joue un rôle déterminant. Le CV de Paul est unique et lui confère une autorité incontournable. Déjà, première chose, il est citoyen romain de naissance.
Ce qui était rare.
Extrêmement rare et prestigieux pour quelqu'un né en Orient, dans la province de Cilicie, à Tarse.
J'avais toujours imaginé que les citoyens romains nés en Orient devaient faire partie d'une espèce d'élite aristocratique, des gens vivant dans des villas luxueuses, quoi. C'était son cas ?
Exactement. Les recherches historiques suggèrent une origine sociale beaucoup plus complexe. En fait, il est très probable que Paul descende d'esclaves affranchis.
Des esclaves affranchis ?
Ouais. Faut remonter dans le temps. Dans les années 60 avant notre ère, le général romain Pompée a conquis la région de Judée et a déporté de très nombreux prisonniers de guerre juifs à Rome pour les réduire en esclavage.
D'accord.
Et au fil des décennies, beaucoup de ces esclaves ont été libérés par leurs maîtres ou ont racheté leur liberté, devenant ainsi ce qu'on appelait des libertini, des affranchis.
Des affranchis qui obtenaient automatiquement la citoyenneté romaine, si je ne me trompe pas ?
Oui, sous certaines conditions légales, l'affranchissement conférait une forme de citoyenneté. Et détail intéressant, le livre des Actes mentionne que Paul fréquentait la synagogue des affranchis à Jérusalem.
Ah, le lien est là.
C'est très probablement par cette voie, à travers ses ancêtres déportés, puis libérés, que sa famille a acquis la citoyenneté romaine dont il a ensuite hérité à la naissance.
Il y a un argument que j'entends souvent là-dessus et qui me laisse toujours un peu perplexe. J'ai lu des sceptiques affirmer qu'il était impossible pour un juif d'être citoyen romain parce que la citoyenneté exigeait de participer au culte païen, de faire des sacrifices à l'empereur, ce genre de truc. C'est fondé, ça ?
C'est une objection très répandue, mais en fait, elle repose sur une méconnaissance des sources antiques. Des figures historiques majeures de la même époque, comme le philosophe Philon d'Alexandrie ou l'historien Flavius Joseph, attestent clairement de l'existence de vastes communautés de citoyens romains de confession juive.
Donc l'Empire était tolérant ?
Étonnamment pragmatique, je dirais. Les Juifs bénéficiaient de dérogations légales, ce qu'on appelait « religio licita », qui les dispensait de participer aux sacrifices païens tout en jouissant de leurs droits civiques. Donc la citoyenneté n'exigeait pas de compromissions religieuses de leur part.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que Paul, il semblait utiliser cette citoyenneté comme une arme tactique. Mais il y a un détail dans l'histoire de la ville de Philippes qui m'échappe complètement.
Lequel ?
L'arrestation.
Oui. Le récit raconte qu'il se fait arrêter par les magistrats locaux. On le déshabille et on le bat violemment à coups de bâton en public. Or, il était illégal de battre un citoyen romain sans procès, non ?
Totalement illégal, oui. Le texte dit qu'il attend le lendemain, après avoir été jeté au cachot, pour finalement déclarer « Au fait, je suis citoyen romain, mais ça n'a aucun sens pour moi. Pourquoi il sort pas sa carte d'identité romaine tout de suite pour éviter de se faire tabasser ?»
Si l'on relit cela, la situation dans son ensemble, particulièrement aux réalités bureaucratiques et politiques de l'Empire, la manœuvre de Paul se révèle être une stratégie de négociation hyper audacieuse.
Audacieuse ? Il s'est fait battre ?
C'est vrai. Mais la citoyenneté romaine, c'était pas une simple carte plastifiée qu'on gardait dans sa poche. S'il avait revendiqué son statut avant d'être frappé, les magistrats locaux auraient été obligés de suspendre la procédure.
Pour vérifier ?
Exactement. Ils auraient dû envoyer des messagers à Tarse ou consulter les registres provinciaux pour vérifier ses dires.
Ce qui aurait pris des mois à cette époque.
Des mois. Des mois pendant lesquels Paul aurait été immobilisé, probablement en résidence surveillée, paralysant ainsi tout son travail itinérant. Et surtout, ça aurait attiré l'attention impériale sur la toute nouvelle communauté chrétienne de Philippe, les mettant gravement en danger.
Donc il encaisse les coups.
Oui. Et en laissant les magistrats le battre illégalement, ce qui est une violation gravissime de la loi romaine qui interdisait les châtiments corporels sur un citoyen, il renverse totalement le rapport de force.
Ah, je vois la mécanique. En violant la loi romaine suprême, ces magistrats locaux risquaient de perdre leur poste, voire carrément pire si Rome la prenait. Paul les tenait.
C'est le terme exact. Il les tenait. Il détient désormais un levier de chantage diplomatique surpuissant. En gros, il peut échanger son silence contre la garantie que ses magistrats laisseront la jeune église de Philippe en paix après son départ.
C'est du génie politique, en fait. Il utilise son statut pour protéger les autres, au prix de son propre corps.
C'est ça. Et cette capacité à naviguer entre les mondes, on la voit aussi dans son nom. T'sais, on pense souvent à tort que son nom a été changé de Saul à Paul par une intervention divine lors de sa conversion.
Ah !
C'est pas le cas.
Je pensais que c'était comme Abraham devenant Abraham.
Non, pas du tout. Avoir plusieurs noms, c'était la norme dans l'Empire. Saul, c'était son nom juif, hérité de sa culture, et Paul, Paulus, c'était son cognomen, son nom romain, lié à sa citoyenneté.
Il a juste switché selon le public.
Voilà, il a choisi d'utiliser son nom romain quand il a commencé à voyager massivement dans le monde gréco-romain, juste pour faciliter les interactions.
Ce qui nous permet de comprendre l'introduction même de sa lettre aux Romains. Sachant qu'il s'adresse à Rome, qu'il est citoyen romain avec ce passé complexe, l'ouverture de sa lettre, Romains 1, verset 1, est fascinante.
Oh que oui!
Il se présente à une communauté qui ne l'a jamais vu avec trois titres bien particuliers, à commencer par « esclave de Christ ».
C'est un choix de mots extrêmement calculé.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Parce que dans notre esprit contemporain, esclave, c'est le statut le plus bas de l'échelle sociale. C'est synonyme d'impuissance totale.
C'est vrai pour nous.
J'essaye de me représenter l'impact du mot à l'époque. Est-ce qu'on pourrait comparer ça au fait d'être, disons, l'assistant personnel d'un dirigeant
Comment ça?
Bah, si je suis l'assistant d'un petit commerçant du coin, mon influence est nulle. Mais si je suis l'assistant personnel du PDG de la plus grande multinationale du monde, techniquement, sur le papier, je suis un subordonné. Mais en réalité, j'ai le numéro direct du grand patron. Et mon pouvoir d'influence dépasse largement celui de la plupart des cadres supérieurs. C'est un peu l'idée, hein.
L'analogie de l'accès direct au sommet, elle est tout à fait pertinente. Dans la structure socio-économique romaine, le système de la clientèle, le prestige d'un esclave ou d'un affranchi dépendait entièrement de l'identité de son maître.
Ah, donc à qui tu appartiens définit qui tu es.
Absolument. Les esclaves qui appartenaient à la maison de l'empereur, la familia caesaris, géraient les finances impériales, l'administration des provinces. Ils possédaient un pouvoir politique bien supérieur à celui de nombreux citoyens libres, voire même de certains sénateurs.
C'est fou.
En se déclarant esclave de Christ, Paul ne s'humilie pas du tout aux yeux des Romains. Il revendique un patronage suprême. Il agit avec la pleine autorité de celui qu'il considère comme le souverain absolu de l'univers.
C'est un sacré positionnement d'autorité pour commencer une lettre. Quel est le deuxième terme qu'il emploie?
Il se décrit comme « apôtre appelé ».
Apôtre, on voit souvent ça comme un pasteur, non?
Dans ce contexte, un apôtre, c'est pas l'équivalent d'un pasteur local qui gère les affaires courantes d'une paroisse. C'est une commission spéciale, c'est un émissaire envoyé pour fonder de nouvelles communautés, pour repousser les frontières.
Un pionnier, en fait.
C'est ça. Et cette fonction, elle était intrinsèquement liée à la difficulté, aux épreuves et à la souffrance. Comme l'avait d'ailleurs annoncé Jésus dans le chapitre 10 de Matthieu. C'est un titre qui impose le respect par les cicatrices qu'il implique.
Et le troisième titre vient compléter cette carte de visite incroyable. Il se dit « mis à part pour l'Évangile ».
Cette expression, elle tisse un lien direct avec les Écritures juives. L'idée d'être « mis à part » renvoie immédiatement au prophète Jérémie, au tout premier chapitre, qui est décrit comme consacré par Dieu dès le ventre de sa mère pour une mission spécifique.
Et le mot « évangile » en lui-même, parce qu'aujourd'hui, ça sonne très religieux.
Quant au terme « évangile », la bonne nouvelle, il puise sa force dans la traduction grecque de l'Ancien Testament que Paul utilisait. Ça fait écho au chapitre 52 du prophète Ésaïe.
Ah oui, le passage qui parle des pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles sur les montagnes.
Précisément. Et le contexte de cette annonce dans Ésaïe, ça ne se limite pas à une notion spirituelle individuelle de « je suis sauvé ».
C'est plus large.
C'est l'annonce géopolitique et théologique de la restauration d'Israël, de la fin de l'exil, du règne de Dieu qui s'établit sur la terre et qui marque le commencement d'une nouvelle création.
Donc, en mettant toutes ces pièces bout à bout, la diplomatie de Paul, elle prend une ampleur incroyable.
Majeure, oui.
Il a face à lui cette poudrière romaine, des factions divisées qui se déchirent pour savoir qui a le droit de manger quoi, qui dirige la communauté. Et il s'adresse à eux en disant en substance... Écoutez, je suis l'émissaire du souverain d'univers chargé d'annoncer la nouvelle création. Vos divisions ethniques et culturelles, ce sont des reliques du passé.
C'est exactement son message.
Vous étiez tous dans l'erreur, vous avez tous été sauvés par la même grâce. Alors s'il vous plaît, commencez à vous traiter comme des égaux.
Et la grandeur de ce texte réside dans sa capacité à ancrer la réflexion théologique la plus élevée possible dans la boue des conflits quotidiens. Paul, il disserte pas dans le vide. Sa théorie de la grâce et de l'égalité devait atterrir directement sur les tables de repas des habitants de Rome.
Là où l'odeur de la nourriture provoquait de la haine.
Exactement.
On voit bien que l'analyse minutieuse d'un texte vieux de 2 millénaires dépasse largement l'exercice purement historique. Cette exploration, ça nous rappelle que les guerres culturelles, les conflits identitaires, les crispations autour de nos propres marqueurs de frontières, ce sont des constantes humaines.
On n'a pas beaucoup changé, finalement.
Non. Face aux minorités aliénées ou aux cultures majoritaires qui tendent à imposer leur vision du monde avec arrogance, les dynamiques sont les mêmes aujourd'hui.
Et la réponse formulée par Paul face à ce type de conflit interculturel conserve une pertinence remarquable.
C'est quoi sa leçon principale pour nous, du coup ?
Au lieu de choisir un camp de manière binaire, sa stratégie, c'est de rappeler à chaque faction sa propre faillibilité. La reconnaissance d'un besoin commun de pardon, ça rend l'arrogance et le mépris culturel totalement illogiques. Il prône un amour actif, un service mutuel qui traverse les frontières sociales, imitant l'action de Jésus qui a lui-même franchi la frontière entre le divin et l'humain.
C'est un changement de paradigme super exigeant, ça. Mais tu sais, en observant l'origine même de toute cette affaire, il y a un dernier élément historique qui mérite réflexion, je trouve.
Ah oui, lequel ?
La rédaction de l'une des lettres les plus étudiées et les plus influentes de l'histoire humaine, un texte qui a façonné la philosophie, l'éthique, le droit en Occident, elle trouve sa source dans un événement presque banal à l'échelle de l'Empire.
C'est une perspective saisissante, t'as raison. Tout ce développement intellectuel majestueux n'aurait peut-être jamais vu le jour sous cette forme, sans une décision administrative complètement arbitraire.
L'édit d'expulsion de Claude.
Voilà, signé par l'empereur. C'est cet accident historique temporaire qui a vidé l'Église de ses fondateurs juifs, créant ce vide culturel, puis ce choc en retour 5 ans plus tard.
Ce qui nous pousse vraiment à nous demander, si un tel pilier de la pensée occidentale a été littéralement forgé en réaction à un conflit local temporaire, tu sais, provoqué par un caprice impérial.
Ouais.
Combien de nos propres règles sociales aujourd'hui, de nos institutions ou même de nos convictions philosophiques contemporaines ne sont au fond que les cicatrices de vieilles querelles dont on a totalement oublié l'origine?
C'est une excellente question pour conclure.
Une question à garder en tête pour nos auditeurs, en attendant notre prochaine exploration.